Conférence privée, Père Philippe, 5 janvier 1983, Raymond.
D'abord, je dis à tous, je l'ai dit ce matin pour le noviciat, mais le noviciat, ce n'est qu'une partie, n'est-ce pas ? Combien je vous offre mes meilleurs voeux de la sainte année, puisque je n'étais pas là au milieu de vous, le 1er janvier. Alors, ça commence à devenir un peu tard maintenant. Mais pendant tout le mois de janvier, on a le droit d'écrire des lettres de bonne année à ses vieux amis. Alors, je le fais ce soir, n'est-ce pas ? J'ai bien prié pour vous le jour de l'an, c'est évident. Vous savez bien, j'étais avec l'Arche. Et comme la communauté est liée à l'Arche, d'une certaine manière, et que l'Arche est liée à la communauté, on n'a pas oublié la communauté Saint-Jean, ça peut être sûr. On l'oublie pas, l'Arche, du reste. Le 2 février, il y aura sans doute, je dis sans doute, parce que c'est mes prises d'habit de nos deux premières sœurs, c'est-à-dire d'Alix et d'Anne-Marie. Prise d'habit d'Alix, et c'est Alix qui donne l'habit à sa première. Puisque c'est comme ça que ça doit se faire, hein, selon la règle. C'est pas les pères qui donnent l'habit, c'est les sœurs qui entre elles se donnent l'habit. Faut pas l'oublier, ça. Parce qu'autrement, ce serait une tutelle malsonnante. Donc il faut que ça, dès le point de départ, ce soit respecté. Vous prierez pour cela, très profondément. D'autre part, ce n'est qu'un avis parce que je ne sais pas encore du tout comment ça pourra se faire. Le père Jean-François, vous savez bien, qui a la Chine dans son cœur, n'est-ce pas, voudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup que son archevêque, qui est de passage en Europe, vienne ici, passera ici, c'est sûr, mais qu'à cette occasion, il puisse conférer le diaconat à ceux qui sont capables de le recevoir. Mais d'autre part, je sais que le père Abbé, de son côté, a tout organisé à l'Érins. Alors, on doit se soumettre à l'autorité supérieure. On ne peut que émettre un vœu. J'écrirai au père Abbé en lui soumettant une possibilité que 3 soient ici et que 3 soient à l'Érins. Alors comme ça, ça fera peut-être une possibilité de faire. Et après, on demandera à la Sainte Vierge quels sont les 3 qui doivent être ici et les 3 à l'Érins. C'est donc prier pour ça. Il n'y a encore rien de décidé. Je serai très bien le 2 février avec le passage de cet archevêque que nous devons prendre dans notre cœur puisque nous aurons un prolongement de la communauté Saint-Jean jusque là-bas. Alors il faut qu'il y ait quand même très vite une profonde unité. On me demande, c'est un petit mot à dire, pourriez-vous expliciter la place et l'importance de la règle de vie pour la communauté, pour les frères de la communauté ? Bien, la règle de vie doit nous rappeler constamment l'esprit dans lequel nous devons vivre. Vous savez, dans toute chose, il y a une règle. Dans le vieil ordre du Carmel, il y a une règle et des constitutions. La règle est faite avant tout pour rappeler l'esprit. C'est-à-dire les finalités et les moyens dont on organise les moyens en vue de la finalité. Et les constitutions nous montrent d'une manière plus juridique la manière dont les moyens sont employés dans la communauté. Il ne faut pas oublier que les constitutions, ça peut changer. La règle, normalement, ne change pas. Il n'y a pas de raison de changer une règle. Parce que c'est vraiment la finalité. C'est la finalité évangélique. Je l'ai relue. C'est bon de relire de temps en temps la règle d'un point de départ jusqu'au bout. Je l'ai relu exprès pour nos sœurs, parce que il faut nécessairement, pour les sœurs, bien que ce soit la même règle, quand même expliciter certains aspects. Et je me suis permis, en le soumettant aux sœurs après, n'est-ce pas ? C'est ce qui va se faire, parce que je ne veux pas imposer. Mais elles avaient la règle, elles m'ont demandé d'expliciter certains aspects propres pour elles. Très peu de choses au point de vue de l'esprit. Vous voyez, c'est expliciter un peu le mystère de la compassion pour elles, parce que je crois que c'est avant tout cela. De sorte que quand on me pose la question ici, la place et l'importance de la règle de vie pour la communauté, je dirais que c'est reprendre dans la lumière du Saint-Esprit et dans la lumière du cœur de Marie ce que représente pour nous la règle. Et nous poser la question, est-ce qu'on est fidèle ? Parce que c'est ça qu'on doit se poser. Pas est-ce que les autres sont fidèles, mais est-ce que nous sommes fidèles ? Vous voyez, au fond, les chapitres portent plus sur les constitutions que sur la règle. La règle, c'est un esprit. Un esprit qui doit nous habiter. Parce que ça doit être un esprit évangélique dans une perspective de ce que représente le point de vue évangélique de la vie apostolique, telle qu'elle demande d'être vécue aujourd'hui. L'exhortation apostolique de Paul VI, 10 ans après le Concile, disait avec beaucoup de netteté ce que Paul VI attendait du sacerdoce. Et de fait, hein, ici on peut le dire, on avait ensemble, le petit groupe, les 7 premiers, comme il y a les 7 sœurs, n'est-ce pas, ça recommence à peu près la même chose, et puis après ça s'agrandit, mais on doit rester fidèle, je crois, à la grâce initiale. Eh bien, au point de départ, on avait tous compris qu'il fallait faire quelque chose dans la lumière de l'évangile de Saint Jean. Et puis une fois que ça avait été fait, on avait regardé avec l'exhortation apostolique, et on avait vu que ça collait parfaitement. C'est merveilleux du reste, parce que ça montre bien que c'est l'esprit de l'Église d'aujourd'hui. Et c'est ce que je crois. Voyez alors, la règle doit être vue dans la lumière de l'Évangile de Saint Jean. L'esprit de la règle doit être vécu dans la lumière de l'Évangile de Saint Jean. Et c'est pour ça qu'ensemble, nous essayons d'entrer pleinement et totalement dans l'Évangile de Saint Jean. Pour essayer à partir de là, vous le savez bien, pour l'Église d'aujourd'hui, faire une grande théologie mystique. Je voudrais beaucoup que ce soit l'œuvre de la communauté Saint-Jean. Alors, vous avec moi et moi avec vous, que ce soit l'œuvre de la communauté Saint-Jean, que nous puissions donner à l'Église d'aujourd'hui une grande théologie mystique. Alors, nous y sommes, nous travaillons pour ça. Moi, j'aimerais beaucoup que chacun d'entre vous, surtout quand vous serez plus en théologie, mais vous l'êtes déjà certains, et on l'évite en théologie, alors il y a les textes des pères de l'Église, il y a tout ça, ce soit un peu une œuvre commune, ce soit pas seulement l'œuvre que je fais en essayant de commenter avec vous, mais qu'on puisse arriver à cela. Vous voyez, nous faisons ensemble, au moins une petite équipe, le commentaire de saint Thomas comme traduction. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse arriver à faire une grande théologie mystique dans la lumière de l'évangile de Saint Jean. Parce que je suis persuadé que c'est cela que l'Église attend aujourd'hui. L'Église d'Orient comme l'Église d'Occident. L'Église d'Occident pour rejoindre l'Église d'Orient. Vous voyez, alors là, nous retrouvons, parce que c'est bon, vous savez, c'est ça qui fait les liens dans une communauté, c'est de faire un travail en commun. Il y a un travail de théologie et de théologie mystique. La théologie scientifique, ce n'est pas la peine de la refaire. Ce n'est pas la peine de gloser indéfiniment sur la théologie scientifique. On voit très bien, les grands commentateurs de saint Thomas ont fait des choses étonnantes. Jean de saint Thomas a fait une chose très étonnante. Ça fait à peu près comme ça, le rayon de Jean de saint Thomas, hein, sur la théologie scientifique de saint Thomas. Je ne vous demande pas de faire quelque chose d'aussi gros, ça coûterait trop cher et on n'arriverait pas à l'éditer. Alors, ce n'est pas la peine de faire quelque chose d'aussi gros. Mais qu'on arrive à faire quelques grands aspects d'une théologie mystique dans ce commentaire de saint Thomas, je crois, dans le commentaire de l'évangile de saint Jean, je crois que c'est très important pour nous. Et de sentir tous intéressés là-dessus, tous pris par ça. Vous voyez que Nous prenons deux pôles, c'est bien évident. Nous comprenons qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de deux choses. Elle a terriblement besoin d'une philosophie réaliste. Et une philosophie réaliste, c'est une philosophie qui, justement, commence par l'éthique, commence par une philosophie du travail. C'est une philosophie aussi communautaire, on essaie de réfléchir là-dessus. Et on a besoin de ça, pas seulement une métaphysique, mais d'abord une philosophie éthique, bien, bien enracinée dans le réel. Hein. Une philosophie du travail, l'Église en a besoin. Puis alors une métaphysique, c'est bien évident, au sommet, une métaphysique. Une philosophie du corps, une philosophie du vivant, on en a besoin, il faut le faire ça. Mais elle a encore beaucoup plus besoin, alors je dirais à d'un cran, l'Église à l'intérieur d'elle-même, elle a encore beaucoup plus besoin de ce que représente une théologie mystique. Vous savez bien, mardi prochain, je serai à Paray-le-Monial, hein, vous prierez aussi pour ça. Un petit groupe de théologiens, puis on est venu l'autre jour me déloger ici, j'avais pas tellement envie parce que j'ai envie de refuser tout maintenant, mais on est venu avec une telle insistance, Mgr Guédon et son acolyte, n'est-ce pas, c'est-à-dire un bon père jésuite, le père Glotin, qui est très très gentil, merveilleux. Alors ils ont dit, il faut à tout prix qu'il y ait un petit noyau de théologiens, il y en a une dizaine qui viendront de Paris, je crois qu'on sera une quinzaine en tout, pour essayer de faire une théologie du Sacré-Cœur. Le but de ces théologiens, c'est d'essayer de sauver le bateau qui est en train de sombrer, hein, pour ne pas dire autre chose. C'est la théologie. Je crois que c'est très très bien de faire une théologie du Sacré-Cœur, mais vous comprenez qu'une théologie du Sacré-Cœur, si elle n'est pas enveloppée dans une théologie mystique beaucoup plus vaste, c'est très difficile. C'est très difficile. La théologie du Sacré-Cœur, elle termine la théologie mystique de Saint Jean. C'est bien évident, la théologie du cœur blessé de l'agneau. Mais c'est un aspect. Alors je ne redirai pas ce que je vous dis maintenant, et je vous le dis à vous, mais pas de fuite hein, d'ici là. Et même après. Alors il faut qu'en même temps qu'il fasse ça, que nous fassions, nous, quelque chose qui soit d'une plus grande envergure, parce que ça peut être d'une plus grande envergure. Nous sommes ici quand même un certain nombre de gens intelligents et ayant la foi, n'est-ce pas? C'est bien évident, le Seigneur a permis cela. Donc il faut que nous puissions nous atteler à un grand travail pour l'Église. C'est important ça. Alors on ne le dit pas, parce que si on le dit, voyez bien, et puis qu'au bout de 10 ans, on accouche d'une souris, c'est pas la peine, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas la peine de le dire. Alors on ne le dit pas. C'est pour ça qu'on n'en parlait pas à l'extérieur, même pas dans vos lettres. Parce que dès que vous dites quelque chose dans vos lettres, c'est publié immédiatement tout partout. Hein. Faut pas l'oublier. Vos parents sont tellement heureux de recevoir de vos nouvelles. Et quand vous dites quelque chose avec joie, alors eux disent à tout le monde, alors faites attention, il y a des secrets de famille. Et pour moi, c'est un secret de famille, ça. Un travail théologique qu'on doit faire ensemble. Et qu'on doit faire ensemble parce que l'Église a besoin d'une théologie mystique. Vous savez bien que saint Thomas, à la fin de sa vie, considérait tout ce qu'il avait fait que c'était comme de la paille. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la nécessité d'une théologie mystique. Et c'est très net que c'est à cause de ça que saint Thomas a trouvé que c'est de la paille. On devrait faire la même chose pour la vie monastique. Une théologie de la vie monastique. Je vous affirme que partout, on la réclame, on le demande. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus important, c'est une théologie mystique pour l'Église, pour les orthodoxes. Mais pas une théologie spéciale pour les orthodoxes, voyez, ce serait de l'apologétique. Pas une théologie spéciale pour les protestants. Non, une théologie pour l'Église, une théologie mystique. Nous en avons tous besoin, tous, absolument. Je me souviens, moi, c'était quand j'avais terminé mes études au Solchoir, je le sentais d'une façon impérative, ça. Et j'avais voulu faire ma thèse sur le point de vue thèse en théologie. Le Christ crucifié est établi de par Dieu notre sagesse. Alors le père Eris comprenait très bien, mais le père Eris m'a dit, père, c'est pas la peine, vous savez, ils ne comprendront pas. C'était le professeur de dogme qui me disait ça. Ils comprendront pas, c'est pas la peine. Alors je me suis rabattu sur la sagesse selon Aristote. Vous voyez, c'est toujours, il faut avoir deux clasiers, deux niveaux différents. Le niveau philosophique, alors ça, ils ne peuvent rien dire, et le niveau proprement théologie mystique. Et pour pouvoir faire une théologie mystique, il faut être armé d'une philosophie. Alors ça, mettez ça dans votre cœur. Et puis quand on fait le petit cours de théologie mystique ensemble sur Saint Jean, eh bien pensez à cela, vous-même, voyez. Et j'aimerais beaucoup que ça puisse vraiment être un travail en commun. Alors on verra comment ça peut se faire, mais je crois que c'est possible. C'est possible. Nous avons beaucoup de labeurs en commun, d'abord au point de vue matériel, c'est sûr, mais il faut que tout de suite ça émerge dans un travail en commun spirituel et théologique, philosophique et théologique. Vous voyez, au fond, quand on se spécialise en philosophie, c'est pour devenir un meilleur théologien mystique. Parce qu'on ne peut pas se spécialiser en philosophie quand on est religieux et quand on désire être un apôtre du Christ. Donc la philosophie, en définitive, c'est pour la théologie mystique. Et on a besoin d'une philosophie pour pouvoir faire une théologie mystique. C'est indispensable. C'est impossible autrement. Alors, mettez ça dans votre cœur. Voyez, ceci, c'est pour comprendre que la règle de vie doit être tout le temps pour nous vue dans la lumière de l'évangile de Saint Jean. C'est un petit résumé pour nous. C'est un petit résumé de la règle de Saint Jean pour nous, dans la lumière de la grande prière sacerdotale du Christ, qui est le sommet, je crois, de l'évangile de Saint Jean. Et c'est pour ça que c'est nécessaire pour nous de la relire de temps en temps et se demander si on est bien en accord, synchroniser notre cœur avec la règle, avec l'esprit de la règle pour entrer pleinement et totalement. Ensuite, les constitutions. Mais les constitutions, vous voyez, on est en train de les faire, puisque c'est toujours ad experimentum, n'est-ce pas, que l'Église nous demande d'avancer. Et donc, il faudra un jour qu'il y ait des constitutions plus nettes, plus précises. Mais à ce moment-là, ce sera l'heure où l'Église nous demandera de les faire. Jusque maintenant, nous pouvons vivre dans un état embryonnaire. Alors, vivre dans un état embryonnaire, c'est vivre dans une très grande fragilité. Mais c'est en même temps vivre, comme on le disait ce matin, dans une très grande croissance. C'est ça ? L'embryon, il a une très grande soif de croissance. Et le chiffre de la communauté Saint-Jean, le chiffre divin de la communauté Saint-Jean, il est donné dans la règle. Mais la manière dont ça doit progresser, dans la manière dont ça doit s'incarner, alors c'est chacun d'entre nous. Et ce sera les petits prieurés. Tous les prieurés auront toujours le même esprit. Mais évidemment, ils l'incarneront selon des modalités différentes. Ça ne peut pas être autrement. C'est le propre de toute vie apostolique, cela. Les uns insisteront davantage sur l'aspect contemplatif, d'autres davantage sur l'aspect apostolique. Et du reste, je crois que c'est la richesse. Il faut à tout prix, dans la communauté Saint-Jean, il y ait des contemplatifs. Et des contemplatifs tels qu'ils puissent vivre entièrement une vie contemplative. Et puis il faut à tout prix, dans la communauté Saint-Jean, des apôtres qui vivent intensément le drame de notre monde d'aujourd'hui, qui vivent intensément le poids des pécheurs, à la manière de Saint-Dominique, qui passait ses nuits à dire « Que deviendront les pécheurs ?» Et je crois que là, il y a quelque chose de très profond qui rejoint la prière de Jésus, qui rejoint le point de vue de la vie apostolique de Jésus. Alors, encore une fois, ça prend des modalités différentes. Et ce n'est pas nous qui choisissons, vous savez. C'est le Saint-Esprit qui choisit pour nous. Ça, c'est tout le temps comme ça. On ne sait jamais. Ce qu'on veut, c'est se donner totalement au Seigneur et d'aller jusqu'au bout des exigences du Seigneur. Alors, je continue un peu avec vous cette théologie monastique. C'est ça qu'on doit faire ici. C'est-à-dire essayer de comprendre comment Marie doit être pour nous, à travers ces mystères, le modèle de notre vie monastique. Et je crois ça très important, de reprendre tout ce que représente la vie monastique dans cette lumière du cœur de Marie. pour lui donner toute sa souplesse et surtout toute sa profondeur. Parce que c'est vraiment là où nous retrouvons tout. C'était la grande intuition de Marthe. Et là, nous faisons ce que Marthe désirait qu'on fasse. Elle me l'a dit combien de fois ? C'était de reprendre la vie religieuse dans sa source. Et la source de la vie religieuse, c'est le cœur de Marie. Vous voyez, la vie religieuse, très facilement, ça fait partie de la vie religieuse, ça, très facilement, elle s'arrête à l'aspect juridique. C'est pas la vie religieuse, l'aspect juridique, c'est tout à fait secondaire. C'est l'analogue de la logique au point de vue métaphysique, vous comprenez ? Alors, il faut pas s'arrêter. Il faut bien respecter, on doit respecter l'aspect juridique, c'est bien évident. Il ne faut pas dire, oh, moi, on est tellement spirituel dans la communauté Saint-Jean qu'on n'en a pas besoin. Non, on en a tous besoin. Et quand on dit qu'on n'en a pas besoin, on est sûr de se casser la tête. Parce que c'est comme ça. Le Saint-Esprit nous demande d'avoir le respect de l'aspect juridique. Mais on ne vit pas de l'aspect juridique. On vit du cœur de Marie. Et dans la communauté Saint-Jean, c'est le cœur de Marie qui doit nous donner ce renouveau de la vie monastique, apostolique, monastique, contemplative, apostolique. Vous mettez bien ces trois points. Il faut toujours mettre les trois. Il y a des vies monastiques liturgiques, il y a des vies monastiques contemplatives, et il y a des vies monastiques contemplatives et apostoliques. Et c'est pour ça que je crois que c'est très bon de ponctuer toujours ces trois moments. Une vie monastique, dans ce qu'elle a de tout à fait foncier, c'est une consécration totale de tout nous-mêmes à Jésus. Suivre l'agneau partout où il va. Voilà le moine. Suivre l'agneau partout où il va. Ça, c'est la chose première. Ensuite, comprendre que suivre l'agneau, c'est d'entrer dans son cœur et dans les exigences de sa contemplation. Et donc la vie monastique doit devenir contemplative. Et suivre l'agneau partout où il va, c'est nécessairement le suivre jusqu'à la croix. C'est-à-dire donner sa vie pour ses frères. Et donner sa vie pour ses frères, c'est toute l'exigence de la vie apostolique. Et cette exigence de la vie apostolique prendra des modalités différentes. Il est évident que Cotignac et la chaise Dieu n'auront pas à se copier. Pas parce que c'est deux évêques différents, mais parce que de fait, c'est deux fondations qui sont différentes, qui n'ont pas la même allure et qui ne doivent pas avoir la même allure. Puisque on nous demande d'un côté prendre une paroisse et prendre un pèlerinage, c'est très beau. De l'autre côté, redonner vie à quelque chose qui risque de se laïciser complètement et de devenir pour le diocèse une source spirituelle en premier lieu pour les prêtres et puis pour tous les fidèles. Alors ça prendra des modalités très différentes, très particulières qu'on ne peut pas savoir trop d'avance, mais on sait que c'est un lieu qui est un lieu grand, où il y a eu de la sainteté, et on doit, par le fait même, redonner vie à cela. Et ça se fait dans la pauvreté. Ça se fait dans la pauvreté. Ceux qui ont été à la chaise Dieu savent très bien que c'est dans la pauvreté. Ça se fait dans la joie du peuple de Dieu qui est heureux de retrouver des moines et qui sont très heureux de cela, tant mieux, pourvu qu'on ne les déçoive pas, et qu'on montre que les moines restent encore jeunes, et à la part Dieu, il faudra rester indéfiniment jeune pour redonner vie à quelque chose qui est par nature un peu lourd à porter, mais qui est peut-être très beau et très grand. Alors évidemment, dans la mesure même où la communauté Saint-Jean prend ses prieurés à figure différente, à physionomie différente, mais c'est forcé qu'à partir de là, on comprend mieux comment la vie monastique doit être une vie monastique contemplative et apostolique. Et puis le Seigneur vous plantera là où lui-même le désire. Oh, vous aurez le droit d'exprimer vos désirs. C'est bien évident. Vous aurez le droit, mais ça ne veut pas dire du tout que c'est un droit. On a le droit d'exprimer des désirs en les brûlant pour le Seigneur et en disant, Seigneur, ça m'est bien égal où vous mettez. Alors à ce moment-là, vous avez le droit de dire tous vos désirs. Mais en même temps, ça m'est bien égal où vous mettez, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que je ne sais même pas pour moi ce qui vaut mieux. On en est tous là. Je ne sais même pas pour moi. Si on m'avait averti au début de ma vie religieuse que je serais professeur de philosophie toute ma vie dominicaine, je serais parti. Je serais parti autre part, pour être sûr, je serais parti autre part. Parce que j'avais devant moi la physionomie de ces professeurs de philosophie, je ne trouvais pas ça drôle. Hein. Alors, quand je suis arrivé à Fribourg, hein, je voyais ça, il y avait 12 professeurs. Alors je disais, ils étaient tous maîtres en théologie, ça m'est venu immédiatement. Aristote parle du ciel des étoiles fixes, qui sont inféconds par nature. Alors je voyais ces 12 professeurs, ces 12 maîtres en théologie, qui étaient là. Extraordinaire, une conversation des plus étonnantes, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'impressionnant, mais on n'avait pas envie du tout de les imiter, hein, je vous affirme. Pas du tout envie de les imiter, on avait envie d'aller le plus loin possible. Oui, bon, très bien, par obéissance. On a fait au moins une fois dans sa vie un acte d'obéissance. C'est déjà pas si mal, vous savez. Parce que quand on a fait une fois dans sa vie un acte de puissance qui compte, hein, qui est un déracinement complet. Partir du Saulchoir à Fribourg, c'était un déracinement complet. Et ça s'est fait par le maître général à télégramme. Hein. C'est bien de recevoir un télégramme. Vous serez à Fribourg tel jour, telle date. Très bien. Sans aucun commentaire. C'était le bon père Gillet à ce moment-là. Le père Gillet était comme ça, il était très impératif. Il savait commander, n'est-ce pas? Il fallait obéir, alors. Il envoyait ses ordres impératifs, surtout pour ceux de la province de Paris, puisque comme il était de la province de Paris, il commandait avec force. Eh bien, c'est vrai que nous devons tout reprendre dans le cœur de Marie. Alors, je vous avais dit reprendre toute notre vie contemplative en regardant le mystère de l'Annonciation. Et c'est pour ça que l'Avent demeure pour un moine le temps le plus merveilleux qui soit. Parce que c'est le temps du silence de Marie, c'est le temps du silence où elle porte son secret. Le secret naît à Noël. Mais avant de regarder Noël, c'est bon de pouvoir revenir à Noël, même un petit peu après le temps de Noël, n'est-ce pas? Parce que ça fait vivre Noël plusieurs fois de l'année. C'est bon. Je voudrais avec vous regarder cette chose si importante pour nous, de comprendre comment dans la vie de Marie, l'exigence de la contemplation et l'exigence de la charité fraternelle sont intimement liées. Et je crois que cela est un des caractères très particuliers que Marie nous demande de vivre. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu. C'est la lumière de Vatican II et c'est, je crois, ce que nous devons vivre, nous. C'est pas commode. Mais c'est un fait que je vois les deux grandes annonciations. L'annonciation faite par l'ange Gabriel, l'annonciation à la croix. Les deux grandes annonciations, celle qui est joyeuse, celle qui est douloureuse. Les deux grands moments de la vie contemplative de Marie, la contemplation joyeuse de l'annonciation, la contemplation douloureuse de la croix. La contemplation est au-delà de la joie et de la douleur. Parce que l'amour est au-delà de la joie et de la douleur. N'identifions pas amour et joie. N'identifions pas amour et tristesse. Il y a moins de danger là. Mais amour et joie, de temps en temps, on l'identifie. On dit, ah, c'est merveilleux, j'aime. Oui, vous êtes dans la joie, tant mieux. Mais il faut voir l'amour qui s'enracine dans la tristesse et dans la souffrance. Et c'est à ce moment-là qu'on voit si l'amour est fidèle. L'amour fidèle, c'est un amour qui s'épanouit dans la souffrance. Et c'est une fidélité qui s'épanouit dans la souffrance. C'est le grand mystère de la compassion. Enfin, nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas, mystère de la compassion. Parce que c'est tellement un mystère que nous devons aimer, que nous devons vivre. Mais ce qui me semble extraordinaire, c'est de voir que l'Annonciation est liée, et c'est Dieu lui-même qui a fait ce lien, est liée à la visitation, est liée à la visite de Marie auprès d'Élisabeth. Et ça, c'est un acte imminent de charité. Et à la croix, c'est Jésus lui-même qui fait le lien entre l'exigence de la contemplation et l'exigence de la charité fraternelle. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Vous savez bien, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont très secoués parce que on côtoie des modalités religieuses si différentes. Avant, les chrétiens restaient chez eux, les musulmans restaient chez eux, les bouddhistes restaient chez eux. Tandis qu'aujourd'hui, tout est très lié. Et alors je dirais à l'intérieur du protestantisme et du catholicisme, à l'intérieur de l'orthodoxie et du judaïsme. De sorte que des quantités de jeunes vous posent la question, du moins, moi ils m'ont posé je ne sais combien de fois. Des jeunes, hein, c'est surtout des jeunes, c'est pas des gens plus âgés, non, mais des jeunes qui sont en recherche. Pourquoi la religion catholique ? Plus qu'autre chose. Alors vous savez bien qu'aujourd'hui, les arguments apologétiques, ça ne signifie plus grand-chose. J'ai jamais vu un jeune sensible à un argument apologétique. Vous en avez peut-être vu, vous, mais pas moi. Jamais vu, encore. Ça reviendra peut-être, c'est possible, parce qu'il y a des cycles comme ça. Quand on dit ça à quelqu'un d'un certain âge, on se dit « Oh, ça reviendra !» Parce qu'ils sont restés fixés à ça en se disant « Au début du siècle, c'était l'apologétique. » C'est vrai, il y avait la grande apologétique du père Grand-Maison. Ça faisait furie. Et il y avait des apologétiques secondaires, beaucoup moins belles que celles du père de Grand-Maison, parce que l'apologétique du père de Grand-Maison garde encore sa qualité. Vous ne perdez pas votre temps en lisant le Jésus-Christ du père Grand-Maison. Vous savez, il y a des choses qui restent très belles et très grandes. Et c'est une très belle apologétique, si vous voulez, avec toute la dignité que ça pouvait avoir de cette époque. Mais on sent très bien que ça ne mord plus du tout chez les jeunes de la même façon qu'avant. Plus du tout. Alors il faut aujourd'hui prendre une vision interne. Les jeunes sont impressionnés par le témoignage, pas par l'apologétique. Marquez que c'est beaucoup plus évangélique. Jésus n'a jamais fait d'apologétique. Jamais. Mais il a témoigné toute sa vie. Jean-Baptiste n'a pas fait d'apologétique. Il a témoigné. C'est très curieux. C'est un fait. Je crois qu'à Jérusalem, on faisait de l'apologétique. Du temps de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, au désert, ne fait pas d'apologétique. Il est témoin. Vous voyez la différence, hein ? L'apologétique, ce sont nos raisonnements que nous prenons pour prouver que ce qu'il nous est révélé est ce qu'il y a de mieux. Que c'est raisonnable, non seulement que c'est raisonnable, mais que ça doit être comme ça. On arrive avec un petit coup de pouce, parce que l'apologétique implique toujours un petit coup de pouce, le petit coup de pouce de la cuisinière du dernier moment. N'est-ce pas? Alors il faut que ce soit bien cuit. Alors un petit coup de pouce de rien du tout, qui fait que l'argument ne porte plus rationnellement, mais on est tout ébahi, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On ne savait pas que ça allait tomber comme ça. Vous voyez, ça c'est fait. Ça c'est l'argument apologétique, hein, l'argument rhétorique pousse un tout petit peu. Les jeunes aujourd'hui, non. C'est le témoignage. Alors il faut comprendre que le caractère propre de la vie chrétienne, et c'est ça que je voudrais que nous vivions pleinement et totalement, le caractère propre de la vie chrétienne, c'est de faire que l'exigence de l'amour à l'égard du Père, l'exigence de l'amour à l'égard de Jésus, l'exigence de l'amour à l'égard du Saint-Esprit, ne fait qu'un avec l'exigence de la charité fraternelle. C'est le même mystère d'amour. Le cœur de Jésus, c'est le cœur d'un homme et c'est le cœur d'un Dieu. C'est ça qui est étonnant. Ça, c'est unique. C'est unique, cela. Et ce qui est unique, c'est que la réponse des disciples du Christ, c'est justement de faire que leur amour pour Dieu, l'ardeur, la ferveur de la contemplation, une contemplation, ça doit toujours être fervent. Il ne faut pas l'oublier, autrement on s'endort. Hein? Donc ça doit être fervent, la contemplation. On a une soif d'aller toujours plus loin dans ce don total de nous-mêmes à Jésus. Et on veut que notre intelligence et notre cœur soient totalement donnés, jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait la même ferveur au point de vue de la charité fraternelle. Il faudrait qu'on ait la même vulnérabilité, vous voyez, à l'égard du cœur de Jésus qu'à l'égard du cœur de nos frères. Et je dis bien la même vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on les aime d'une manière telle qu'on ne peut pas souffrir qu'on dise du mal d'eux. Ça nous blesse. Comme lorsqu'on est en face de quelqu'un qui dit du mal de Jésus, ça nous blesse, ça nous fait mal. Vous avez déjà donné ce petit exemple de cette luthérienne qui, à Vienne, en Autriche, se trouvait devant ces bûcherons, de bons bûcherons, avaient des jurons extraordinairement forts, et puis quand c'est dit en allemand, c'est encore plus fort, ça a une force. Alors, elle passait là, puis elle entend ça, alors elle revient sur ses pas, et elle dit, messieurs, je vous en supplie, ne dites plus ça, ça me fait tellement mal. Et ça les a impressionnés, de voir une fille de 16 ans leur donner cette leçon. Moi, ça m'est resté, parce que ça fait comprendre la vulnérabilité d'un cœur qui aime Jésus. Il faudrait que nous ayons la même vulnérabilité à l'égard de tous nos frères. Quand on dit, on leur dit du mal d'eux, quoi, c'est quelque chose qui n'est pas bien, ça nous blesse. Comme ça nous blesse si on dit quelque chose qui est contre le Christ. C'est ça être chrétien. Tant qu'il n'y a pas ça dans notre cœur, nous ne sommes pas entièrement chrétiens. Il y a le petit païen qui demeure. On est chrétien par le sommet, on est païen par le bas. Je veux dire, on est chrétien par le sommet, puis on est païen par tout ce que représente notre relation à l'égard des autres. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que notre cœur soit entièrement au Christ. Et ça, nous devons le demander hein, tous les jours, tous les jours. Nous devons demander au Christ de transformer notre cœur en son cœur. Et si Jésus transforme notre cœur en son cœur, eh bien, il nous donne cette vulnérabilité d'amour. Qui fait que nous aimons Jésus comme lui-même aime le Père, du même amour, et que nous aimons nos frères. Nous ne les avons pas choisis, c'est Jésus qui les a choisis pour nous, heureusement. Il les a bien choisis, vous savez, il a bon goût. Il les a bien choisis, il les a choisis à sa manière. Alors, nous devons les aimer comme Jésus lui-même les aime, avec le même amour, la même intensité et avoir la même vulnérabilité. C'est très beau du reste, ça. C'est merveilleux. Et c'est ça la charité fraternelle vécue à travers le cœur de Marie. Si je regarde Marie au moment d'Annonciation, l'ange indique à Marie, la vieille cousine Élisabeth, que Marie a complètement oublié. Sûr, Marie ne pensait pas à la vieille cousine Élisabeth. L'ange lui rappelle que la vieille cousine Élisabeth, elle a besoin de la visite de Marie. Elle a besoin de la présence de Marie. Marie, et c'est dit avec beaucoup de délicatesse, hein. L'ange ne dit pas à Marie, tu dois y aller, tu sais. c'est vraiment la volonté du Père, tu dois y aller. Pas du tout. C'est comme ça dans la vie commune. C'est le Seigneur qui vous a unis. Évidemment, si vous avez demandé conseil, il y a des chances que ce serait passé autrement. Ça, c'est bien évident. S'il nous avait demandé conseil, hein. Moi, s'il m'avait demandé conseil, j'aurais sûrement pas uni une communauté comme ça. Sûrement pas, pour être sûr. Hein. C'est évident, on n'aurait pas encore su une communauté comme ça. Mais quand on sait que c'est le Seigneur, alors on voit que c'est bien plus grand que tout ce qu'on aurait fait. Bien plus remarquable, c'est merveilleux d'avoir mis autour de nous des frères comme ils sont. Ceux avec qui on s'entend parfaitement, avec qui on a... Ben c'est merveilleux d'avoir mis dans la communauté des frères avec qui on peut s'entendre parfaitement. C'est quand même très étonnant. Et puis ceux qu'elle, c'est plus difficile, mais tant mieux, comme ça on se corrige un peu, on lutte un peu, et on ne se croit pas déjà arrivé au paradis. Et on sait qu'il y a à lutter, et qu'on a à se corriger, et qu'on a à acquérir une souplesse plus grande pour accueillir, parce qu'autrement, on fera exactement la même chose dans notre ministère. Il y aura des têtes que nous accepterons, et puis des têtes que nous refuserons. Vous savez bien, c'est toujours comme ça que le Seigneur fait. Alors, nous sommes prêtres de l'Église catholique. Nous sommes moines de l'Église catholique. Donc, pour toute l'humanité, pour tous, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faudrait qu'on puisse dire ça en toute vérité. Que ceux que Dieu a choisis pour nous, qu'il a mis sur notre route, il sait. Le Père Deux aimait beaucoup, hein, de dire que Dieu faisait des bouquets encore beaucoup plus beaux que les bouquets japonais, n'est-ce pas ? Encore beaucoup plus beaux que les bouquets que peuvent faire les bouquets pour Noël, n'est-ce pas ? Des choses encore beaucoup plus belles, quelque chose encore beaucoup plus étonnant. Et que Dieu aimait de mettre une petite violette à côté d'une pivoine. C'est vrai. Quelles sont les pivoines dans la communauté ? Quelles sont les violettes dans la communauté ? Les violettes, elles rougissent, hein, pour ne pas bleuir. N'est-ce pas ? C'est les petites violettes dans la communauté. Mais c'est vrai, c'est ça une communauté. Et puis il y a 36 toutes les autres fleurs multiples et diverses que le Seigneur met. Le Seigneur a choisi chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a choisi. Et c'est vrai, quand on regarde l'itinéraire de chacun, on voit que c'est très étonnant. Choisi chacun d'entre nous pour aboutir à ça. Pour aboutir à ce qu'on soit tous ensemble au réfectoire, à manger ensemble, mais surtout à prier ensemble, à rester dans le silence de l'oraison et à s'aimer. C'est un devoir impératif de s'aimer comme le Christ veut que nous nous aimions. Tous, sans exception. La charité demande d'être catholique, universelle. Alors évidemment, c'est sûr, c'est impossible autrement. Celui qui dirait, ah, je dois aimer tout le monde de la même manière, c'est ça être catholique. Non, ça c'est faux. L'égalité n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est qualitatif et on aime chacun d'une manière unique. Le tout, c'est de les aimer tous. Et de les aimer chacun en particulier. Et d'aimer, surtout vis-à-vis de ceux qui sont un peu plus difficiles quant à notre jugement propre, ceux que nous jugeons comme étant un peu plus difficiles, les aimer encore plus. Parce que si c'est plus difficile, il faut que la victoire de l'amour soit plaignée là. Je crois que c'est très important pour nous, voyez. Là, on rejoint le cœur de Marie. L'ange n'a pas dit à Marie d'aller auprès d'Élisabeth, simplement un signe. Dieu aime que dans la charité fraternelle, nous ayons nos initiatives. et c'est vrai ça, nos initiatives dans la charité fraternelle, que nous ayons cette spontanéité de prier les uns pour les autres, de se supporter avec amour, dans le silence, oui, sans trop vite dire ce que nous pensons. Parce qu'ordinairement, quand nous disons ce que nous pensons trop vite, ce n'est pas d'une manière positive, c'est plutôt d'une manière négative. N'est-ce pas ? Nous sommes les enfants de ce siècle, et les enfants de ce siècle font que la négation est avant l'affirmation. Alors à ce moment-là, on détruit plutôt que unifier, on fait du mal. Alors qu'on doit, au contraire, faire que l'unité de la communauté soit de plus en plus vrai dans le cœur du Christ. Et cette unité, c'est cette qualité de charité fraternelle. Il y aurait 10 frères qui s'aimeraient héroïquement et divinement héroïquement. Toute la communauté est changée. Oui, il y aurait des bavures, c'est évident. Il y aura toujours des bavures. Autour des saints, il y a toujours des bavures. On ne peut pas être autrement. Alors, s'il y a 10 saints au lieu de vous, c'est bien. Qui s'aiment vraiment et qui ont dit « Ah bon, cette année-ci sera une année de victoire de la charité fraternelle. » C'est notre manière d'être une année sainte. C'est de répondre pleinement et totalement à cette charité fraternelle. Mais d'y répondre avec un cœur joyeux et d'y répondre pleinement. Je suis persuadé que s'il y en a 10, ça porte tout le reste. Et la communauté sera joyeuse et la communauté sera ailée. Parce que ça donne des ailes, la charité fraternelle. Ça transforme le plomb en or. Hein, c'est merveilleux. Parce que quand il n'y a pas de charité fraternelle, je vous affirme, c'est du plomb. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Parce que c'est les conséquences du péché originel, que voulez-vous. Et des vieux garçons. Et on vient vite des vieux garçons, vous savez, dans la charité fraternelle. Quand on n'aime pas de charité fraternelle, on devient des vieux garçons. C'est-à-dire qu'on a ses habitudes. Et si quelqu'un ne marche pas exactement comme nous l'avons prévu, ça ne va pas. Alors ça, c'est le vieux garçon. Parce que quand un homme est marié avec une épouse, et quand il s'est donné, ben, il faut bien qu'il accepte, hein, qu'il y ait un petit échange quand même. Hein. Autrement, ça n'ira pas très loin. Alors l'homme est obligé de s'assouplir. Il est obligé de s'assouplir. C'est pas toujours drôle. Hein. Regardez les confidences de gens mariés, vous verrez bien. Hein. C'est pas toujours drôle. C'est bien évident que c'est pas toujours drôle. La vie commune, c'est pas toujours drôle. Hein. On sait bien ça. Et on sait très vite que c'est pas toujours drôle. La charité fraternelle, c'est le levain de la vie commune qui fait que la pâte doit devenir quelque chose de merveilleux. Ne confondons pas le levain et la pâte. Et comprenons que la vie commune, c'est le levain, c'est la pâte, et la charité qui est dans notre cœur. Que Dieu a mis dans notre cœur, ça doit être ce levain. Alors quand on sait que la pâte est particulièrement pâte, n'est-ce pas, dans un endroit particulier, alors on y met toute sa charité fraternelle pour essayer de faire qu'il y ait quelque chose qui change. Parce qu'il faut qu'il soit quelque chose qui change. Je trouve ça merveilleux, voyez, que Marie, dans son mystère de l'Annonciation, qui est le mystère de la contemplation qui porte le secret, donc qui est le mystère le plus silencieux qui soit. Je crois que c'est un mystère de silence étonnant, le mystère de l'Annonciation. Que ce mystère est tout de suite lié à l'exercice de la charité fraternelle. Et Marie, parce qu'elle est contemplative, comprend tout de suite, en toute hâte, elle va auprès d'Élisabeth. En toute hâte, elle entreprend ce voyage pour montrer son amour pour le Père. Plus notre vie contemplative est intense, plus notre vie contemplative est forte, plus il faut que la charité fraternelle jaillisse de notre cœur. Et je dis bien jaillisse de notre cœur, c'est-à-dire soit une charité fraternelle conquérante, au-delà encore une fois des sympathies et des antipathies. On le sait bien, ces sympathies et ces antipathies. Il ne faut pas les cacher, il faut être lucide. Vous êtes lucide, il faut reconnaître que nous avons de la peine à coopérer avec quelqu'un, nous avons de la peine à vraiment être dilatés, épanouis, alors qu'avec d'autres, hein, si tous étaient comme ça, comme ce serait merveilleux, ah, vous verriez, hein, parce que même si tous étaient comme ça, ça n'irait pas, parce qu'ils seraient tous comme ça, et non, ça ne va pas, n'est-ce pas, qu'un et un ou deux, ça va très très bien, mais tous, c'est impossible. La victoire de l'amour, c'est de dépasser les sympathies et les antipathies. C'est pas refuser les sympathies. Non, non, pas du tout. Soyons lucides et comprenons qu'il y en a certains que, oui, on est en comme naturalité beaucoup plus grande avec certains. Mais on ne s'arrête pas à cela. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui va beaucoup plus loin, c'est notre amour pour le Christ. Et c'est notre amour pour le Christ qui nous permet de regarder celui avec qui il y a une entente de connaturalité, de sensibilité. Et on est heureux alors de voir comment Jésus le regarde et l'aime. Et la charité fraternelle, loin de supprimer ces connaturalités, les augmente. C'est ça qui est le plus invraisemblable. Ça les augmente. Nous venons, par la charité fraternelle, par la contemplation, nous devenons des êtres plus sensibles. Et donc, les sympathies et les antipathies augmentent. Évidemment, il faut une soupape de sûreté à un moment donné. Bon, il ne faut pas que ça aille trop loin. Mais si les sympathies et les antipathies augmentent, c'est bien évident. Vous avez fait tout ça et vous ferez toute cette expérience au bout de 10 ans de vie religieuse. Quand vous reverrez des amis, au bout de 10 ans de vie religieuse, des amis qui auront pris tout à fait une autre voie et que vous aurez essayé vraiment d'être fidèles à la contemplation et d'aimer vos frères, vous apercevrez à ce moment-là que vous avez une sensibilité beaucoup plus grande qu'eux. Et vous semblerez l'impression que quelque chose qui ne s'est pas dénoué chez eux. On s'en aperçoit des fois très vite, même au bout de 6 mois. Mais ordinairement, il faut un petit moment. Alors on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose que Dieu fait, cette chose étonnante. Dieu, voyez, met son esprit dans la chair, donc dans la sensibilité, et que tout est changé par l'amour. Tout devient plus spirituel par l'amour. Mais c'est ce que saint Basile dit, quand il dit que la virginité s'exprime jusque dans notre sensibilité, dans notre regard, dans notre toucher, à travers toute la physionomie de notre être. On comprend très bien cela, qu'il y a quelque chose qui est purifié du dedans par la charité. C'est le levain qui transforme la pâte. Il faut comprendre comment Marie, par le mystère de la visitation, nous donne cette docilité à l'égard des petits signes. Or, il y a des grands signes. Le signe magistral, c'est que nous sommes tous ici ensemble. C'est un signe, ça, c'est bien évident. C'est un signe magistral. Et c'est vrai, c'est un signe magistral qui fait qu'on essaie de s'aimer. Et on s'aime. On s'aime. Pas encore trop mal. Faut pas trop le dire, hein, mais pas encore trop mal. On essaie de s'aimer. On essaie de pédaler à peu près au même pas. Bien qu'il y en a qui pédalent plus vite et d'autres moins vite. On essaie. Parce qu'à un moment où on pédale plus vite et que d'autres pédalent moins vite, on se dira, moi je serai fatigué, lui il se mettra à repédaler plus vite, il va m'aider. Et c'est vrai, c'est comme ça. Alors on s'aime. On se retrouve tous les matins, tous les soirs, dans l'oraison. Et dans l'oraison, c'est la fusion des cœurs dans le cœur de Jésus. C'est pour ça que c'est si beau l'oraison en commun, et que c'est si grand, et que c'est si important. On doit y tenir d'une façon très forte, et plus on sent qu'on risque un tout petit peu de se séparer parce qu'on est un peu de mauvaise humeur ou fatigué, plus il faut être fidèle à cela. Une oraison où on est vraiment tous auprès de Jésus, dans le cœur eucharistique du Christ. On est tous là présents. Il y a une fusion qui se fait. si on voyait ce moment-là, il y a une fusion qui se fait, et Marie est là. Alors, même s'il y a des difficultés, même si on s'est fait un tout petit peu de mal, même si de fait on s'est heurté, ça n'a pas d'importance. Là, auprès du cœur de Jésus, on est un. On est un. Dans le cœur du Christ, on est un. Je vous ai déjà dit, l'unité, c'est pas de penser tous la même façon. Heureusement. Parce qu'il faudrait faire l'unanimité par le bas. Alors, voyez ça. L'unité d'une communauté, c'est, il ne s'agit pas de tous être des imbéciles, n'est-ce pas? C'est pour être unanime, c'est pas ça du tout. Hein. C'est dans une communauté, l'unité, elle se fait au-delà de la communauté, le cœur de Jésus. C'est la différence du bien commun au point de vue philosophique et le bien commun d'une vie monastique. Le bien commun de la vie monastique, il est au-delà de la vie monastique. Une vie monastique contemplative a son unité dans le cœur de Jésus. Et c'est comme ça que c'est vivable. Parce que c'est le cœur de Jésus qui fait l'unité. Autrement, c'est impossible. Alors ça, il faut toujours se le rappeler, voyez. Et rappelez-vous ça dans cette grâce de l'épiphanie et de Noël, qui est une grâce de renouveau. Hein. Nous recommençons un nouveau semestre, un nouveau trimestre. Hein. Nous recommençons un nouveau trimestre. Nous savons très bien que le premier était dur, hein, oui, il était dur, c'est déjà passé, mais il était dur, c'est très vrai, et que ça a été assez secoué, ça a été dur au point de vue travail manuel, parce que c'est dur de commencer dans un chantier, et de savoir que ce chantier, c'est notre chantier, c'est pas quelque chose d'extérieur, hein. Donc c'est dur de voir que forcément, c'est lourd. On l'a quand même vécu avec beaucoup d'amour. Je crois. On l'a vécu avec beaucoup d'amour. Nous recommençons un nouveau trimestre, le second. Et dans ce second trimestre, il faudra jeter des ponts, voyez, aller rendre visite à Paray-le-Monial, aller rendre visite à Thésée. Donc, au début, il faut être seul hein, pour pouvoir aller à notre rythme. Mais maintenant, nous pouvons peut-être faire ça. Et c'est vrai, ça c'est très vrai qu'il faut le faire. Parce que nous devons être attentifs aux autres, faire nos petites visitations à notre manière hein, et les recevoir avec beaucoup d'affection. Bon, il faut cela, mais il faut continuer selon notre rythme. Il faut continuer avec l'intensité d'amour renouvelée dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie. Prier les uns pour les autres, pour ceux qui ont un travail manuel encore intense et encore très fort. Il faut prier pour cela. Et on demande à cela de prier pour que la vie intellectuelle, le travail intellectuel ne baisse pas, et qu'au contraire, il s'intensifie, pour que nous soyons fidèles aux exigences de l'amour. Et puis nous prions les uns pour les autres, pour maintenir cet accueil très grand à l'égard de nos frères, en essayant de mieux nous connaître, de mieux nous aimer, et surtout, de nous regarder dans le regard du Christ.
Amen. Oh.